Nous ici, nous avons la chance d'avoir un maire qui, lui, fait preuve constamment de courage, d'engagement, de ténacité, parce qu'il nous apprend, et vous savez que je travaille à ses côtés depuis de longues années, il nous apprend que les difficultés, il ne faut pas s'y résigner, les difficultés, il ne faut pas dire oh, « c'est trop dur, j'arrête ». Au contraire, il faut se battre, il faut faire preuve d'engagement, de courage, de ténacité. Et je voudrais, avec vous ce soir, mes chers amis, que nous manifestions à Gérard Trémège notre affection, notre reconnaissance et, je dirais, notre admiration pour le courage et la ténacité et l'exemple qu'il nous donne au quotidien. Merci pour cet exemple. Alors, mes chers amis, je vous disais tout à l'heure, bien sûr, naturellement, me référant à la climatologie, les circonstances météorologiques ne sont pas folichonnes. Pour autant, ça a été dit par, avec fougue et conviction par Frédéric et par Myriam, et Gérard Trémège vous le redira tout à l'heure encore, il ne faut pas non plus se résigner, se contenter, de regarder les chiffres, dire qu'ils sont difficiles, ils sont insurmontables, nous n'y parviendrons pas, rentrons chez nous, allons nous coucher, mettons la couette sur la tête, et attendons que ça passe. Alors c'est pas le genre de la maison, d'une part, et ensuite, dans une météo, quelle qu'elle soit, les éclaircies sont toujours possibles. Regardez, mes chers amis, ce qui vient d'arriver aujourd'hui. Comme éclaircie, vous m'excuserez du peu quand même. C'est plus qu'une éclaircie, comme c'est Twitter, c'est un gazouillis. Alors vous vous souvenez, lors du débat du second tour de l'élection, entre les deux tours de l'élection présidentielle, donc c'était quasiment il y a un peu plus d'un mois, jour pour jour, François Hollande, candidat à la présidence de la République, maniant la rhétorique de façon, a-t-il reconnu, totalement artificielle, puisqu'il a dit « c'est la façon dont Laurence Ferrari m'a posé la question qui m'a fait commencer ma phrase comme ça ». Donc ce n'était pas du tout préparé. Donc c'est lancé dans une vaste anaphore. Vous savez, cette image rhétorique où on répète, répète, et vous vous souvenez, et il dit « moi, président de la République, patati, moi, président de la République, patata, et notamment en substance, moi, président de la République, on ne mélangera plus jamais les genres entre la vie publique et la vie privée. Bravo !» Pour une réussite, c'est une réussite. Alors, nous avons vu, pour ceux qui sont connectés à Twitter et qui ont sur leur smartphone, quelle qu'en soit la marque, ne citons pas de marque, des alertes permanentes. Donc moi, il était un peu plus de midi, j'étais dans mon bureau à mon agence à Bagnères de Bigorre, tout d'un coup ça gazouille, qu'est-ce que je regarde, patatras, je dis c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est une manip, c'est certainement un hacker qui a craqué le compte Twitter de la douce Valérie. Un quart d'heure après, confirmation AFP, tout ça est vérifié. Mes chers amis, on nous promettait une présidence normale. Voici une présidence tellement normale qu'on peut la retrouver dans toutes les séries télévisées. Alors le plus ancien du rôle, c'est Galas. Les plus modernes du rôle, c'est Desperate Housewives. Et vous permettrez, garçon un peu classique qui n'a jamais été à la mode de sa vie, de plutôt faire référence au théâtre de boulevard, moi je dirais c'est du vaudeville. Alors les portes claquent, les portes ferment, ça rentre, ça sort, l'ex, l'actuel, la future peut-être, se mettent sur la figure. Et comme dit l'adage bien connu, dans un ménage à trois, ce qui compte, c'est d'être un des deux. Mais voyez-vous, au-delà du sourire naturel que peut et que doit nous inspirer ce genre de circonstances, je dirais que la situation est probablement trop grave pour vraiment que le rire qui est le nôtre soit tout à fait de qualité. Première réflexion sur ce micro-événement, qui néanmoins prend une ampleur considérable. Première réflexion, c'est, à un moment où on nous parle de justice et d'égalité, c'est l'inégalité de traitement. Oh, vous allez voir, les vaguelettes vont rapidement s'apaiser, la fraise va rapidement étouffer tout ceci. Imaginez si Carla, voire Cécilia, avait envoyé un tweet de cette facture-là. Imaginez ce qui se serait passé. Deuxièmement, Nicolas Sarkozy, lors du second tour, débat du second tour, ce même débat du second tour de l'élection présidentielle, avait dit à François Hollande, qui, comme une ancienne, comme une scie, répétait, je serai normal, lui avait dit qu'il craignait que sa normalité ne soit pas à la hauteur des enjeux, de la fonction et des événements auxquels il sera confronté, et auxquels il est déjà confronté. Je crois que nous en avons l'éclatante illustration, et nous avons devant nous, mes chers amis, la démonstration que nous avons, comme président de la République, un homme faible, tiraillé entre l'une et l'autre, et qui ne sait pas comment faire, parce que si vous voulez mon point de vue, et j'en finirai sur ce sujet passionnant juste après ça, si vous voulez mon point de vue, ce qui est le plus inquiétant, ce n'est pas le gazouillis du tweet, c'est le silence assourdissant de l'Élysée depuis que le Twitter a gazouillé. Deuxième réflexion qui nous anime au moment de cette campagne pour le second tour des élections législatives, c'est après ce rire, dont j'espère qu'il était un peu de qualité, quoique les circonstances font que c'est un rire un peu grinçant. Néanmoins, je voudrais revenir sur les circonstances, les conditions économiques, sociales dans lesquelles nous nous trouvons. Vous voyez que la situation en Espagne, qui est notre plus proche voisine, est plus que vacillante. Vous voyez que l'Italie, elle aussi, est confrontée à des taux qui continuent à s'élever fortement pour aller lever de l'endettement et des emprunts sur les marchés financiers. Je crois que nous devons être extrêmement vigilants et attentifs sur la façon dont les choses sont passées. Gérard Tremel en dira peut-être plus éloquemment que moi quelques mots dans un instant, mais ce que je regrette et ce que nous pouvons regretter les uns et les autres tous ensemble, c'est que la France se retrouve dans une espèce d'état d'apesanteur entre les désistements ou pas désistements d'entre-deux-tours, les tweets et que sais-je, et finalement la réalité économique et sociale, celle que vous toutes et vous tous, les entreprises, les commerçants, les artisans, les salariés, les retraités, les jeunes rencontrent tout au long, tous dans leur vie, ces difficultés-là, personne n'en parle, tout le monde y met un molleton bien épais dessus pour surtout ne pas réveiller le bon peuple. Hélas, les réalités vont se rappeler à notre souvenir très vite dans les semaines qui viennent, dès après l'été ou peut-être même dans le courant de l'été, et les lampions de la fête finiront bien par s'éteindre, hélas, dirais-je, car au-delà des engagements politiques qui sont les nôtres, au-delà des volontés que nous avons de voir une famille plutôt l'emporter sur l'autre, nous avons tous le souci de l'intérêt général, de l'intérêt commun, et nous aimerions bien que la France puisse surmonter les difficultés. Or, aujourd'hui, on voit bien que ce sont les vieilles recettes, celles de 1997, que l'on essaye de nous faire avaler. Vous avez bien vu que pour se conforter, que pour essayer d'obtenir cette majorité absolue pour le Parti Socialiste lui seul, le président de la République s'est empressé, dès le Conseil des ministres précédant le premier tour de l'élection présidentielle, de prendre en Conseil des ministres un décret instituant ou rétablissant partiellement la retraite à 60 ans, rétablissement partiel qui ne concernera qu'une frange de la population, mais les promesses n'engagent que ceux qui y croient. C'est un signal qui est donné, un signal qui est donné à ceux qui veulent que rien ne change, que le monde dans lequel nous sommes depuis des années n'évolue pas en dépit des circonstances, mais également message très négatif donné à l'ensemble de nos partenaires économiques à rebours de ce qui se fait dans le monde occidental et ce qui se fait dans le reste de l'Europe. Là, en revanche, nous avons de réelles raisons de nous inquiéter. Sans vouloir être jouer les Cassandres, sans vouloir, après vous avoir fait rire, plomber inutilement l'ambiance, après le tweet, je regardais en fin d'après-midi, avant de vous rejoindre, un document qui émanait de sites d'information, pas Mediapart, mais plus fréquentable, Atlantico, où je lisais, sous la plume d'un économiste, qu'on risque de voir dans les mois qui viennent, d'ici la fin de 2012, des défaillances, des défauts de paiement de dettes souveraines, c'est-à-dire d'États qui ne pourront plus forcément faire face à leur endettement de plus en plus nombreux. Et, disait cet économiste, l'Allemagne, après l'Italie, viendra le tour de la France, mais nous ne nous leurrons pas, après la France, viendra aussi le tour de l'Allemagne, car l'Allemagne, avec une démographie extrêmement faible, extrêmement atone, est confrontée et sera rapidement confrontée, elle aussi, à des difficultés. Et de conclure que nous risquons de voir avant la fin de 2012, ou avant l'été 2013, c'est-à-dire avant un an, la fin du monde économique et social et financier tel que nous le connaissons aujourd'hui, qu'il va falloir faire preuve de courage, de détermination et d'imagination et de clarté pour pouvoir faire face à ces changements et ces bouleversements qui s'annoncent. Et permettez-moi cette formule un peu à porte-pièce et un peu triviale par rapport à la difficulté et à l'importance de l'enjeu. Je crains que l'exécutif que les Français se sont donné le 6 mai dernier et dans les jours qui ont suivi, je crains que cet exécutif ne soit singulièrement pas taillé pour l'aventure. Alors voilà, mes chers amis, vous êtes, je le disais, nombreuses et nombreux ici ce soir pour nous soutenir et surtout pour manifester, et je vais le faire à travers vous, comme nous l'avons fait tout à l'heure, notre attachement, notre affection et notre solidarité, notre soutien à l'égard de Gérard Trémège qui porte nos couleurs dans cette élection législative. Nous avons besoin, vous le savez, l'affection que je lui porte, nous avons besoin d'élus, d'hommes de son... de son style, de son engagement, de sa clairvoyance et de sa volonté, dans un sens d'intérêt général, de se battre pour ce département, cette ville, cette agglomération et ce département. Alors, mesdames et messieurs, mes chers amis, Frédéric Puisségur vous a dit tout à l'heure, reprenant le slogan de notre campagne, vous avez le droit d'aimer, vous avez le droit d'aimer avec Gorky Havin, vous avez le droit d'aimer tout ce que l'on vous décrit depuis de longues semaines, vous avez le droit d'aimer surtout notre candidat Gérard Trémège. Je voudrais, pour conclure ce propos, vous adresser deux messages. Le premier, à nouveau, un remerciement chaleureux et une marque de reconnaissance à toutes celles et tous ceux qui nous accompagnent et qui nous soutiennent dans cette campagne, sur ces chemins de la campagne électorale. Merci à vous toutes et à vous tous. Et vous pouvez nous applaudir. Et deuxième message, mes chers amis. Dès ce soir, dès demain matin, appelez, parlez, convainquez, allez chercher avec les dents s'il le faut, allez au-devant de toutes celles et tous ceux que vous connaissez. Et si chacun d'entre nous réussit à aller chercher, convaincre, mobiliser 4-5 personnes, et que c'est chacune de ces 4-5 personnes mobilisées par chacun d'entre nous n'en convainc plus, n'en mobilise plus que deux, déjà ça commencera à changer les choses, car vous avez vu que ce qui s'est passé aussi dimanche dernier est le résultat d'une très forte abstention, et souvent une très forte abstention dans nos rangs, parce que l'élection présidentielle n'a pas été gagnée, et que ça veut dire aussi des mobilisations. Donc mobilisez-vous, rajoutons un par un nos amis, nos sympathisants, nos proches, nos électeurs, ramenons-les sur le chemin des isoloirs, et vous verrez, les scores monteront, et qui sait, peut-être, car n'oubliez pas, non seulement vous avez le droit d'aimer, mais vous avez surtout le droit d'y croire. Merci.